Cela fait maintenant 2 ans et demi qu'Hollande et le PS sont au pouvoir. Ceux qui avaient cru un peu qu'il serait moins pire que Sarkozy et la droite ont dû vite déchanter. Car nous avons pu très vite voir que le PS, ce n'était pas le changement promis et qu'il continuait la politique de la droite en l'aggravant. Pendant les élections, nous avions dit à ceux qui votaient pour Hollande et qui pensaient que de toute façon, ça ne pouvait pas être pire que Sarko, qu'il se faisait des illusions. Car pire, ça l'est. La loi Macron, qui se met en place en ce moment et qui va se traduire par un recul considérable des protections des salariés, en est l'illustration. Oui, Hollande a menti, a renié ses promesses, une par une, comme le font tous les politiciens à la recherche de suffrages pour se faire élire. Mais une fois élus, Hollande et les siens se sont soumis et obéissent à ceux qui détiennent le véritable pouvoir. Ils se sont mis au service des riches, des grands patrons, des banquiers, c'est-à-dire de ceux qui s'enrichissent de l'exploitation des travailleurs. Ces gens-là ne sont pas élus, mais ce sont eux qui décident, qui commandent, y compris aux hommes politiques. Et ils n'étaient pas bien malins de le prévoir. Il suffisait simplement de se souvenir de ce qui s'était passé avec Mitterrand, avec Jospin. À chaque fois, on nous a refait le même coup. Et il ne faut pas aller bien loin pour le constater. Regardez ce qui se passe autour de nous, dans notre département seulement. Mon camarade Philippe Julien est pris ailleurs aujourd'hui. Mais on a encore tous en tête la fermeture de l'usine PSA à Aulnay. Tout le monde se souvient de la riche famille Peugeot qui pleurait misère il y a 2 ans et osait prétendre que cette fermeture était vitale pour sauver le groupe. En fait, elle l'était surtout pour maintenir la fortune de la famille Peugeot et celle des gros actionnaires de PSA. Car à chaque fois, quand les patrons prétendent sauver l'entreprise, ils n'ont pas en tête l'emploi, mais leur profit. Et sur ce terrain, les choses vont au mieux. Le groupe PSA a présenté ses résultats financiers pour 2014. 905 millions d'euros de bénéfices qui vont s'ajouter au gros magot que possèdent les actionnaires. En même temps, on apprend que les 4 membres du directoire de PSA se sont votés une augmentation de salaire de 86%. Leur rémunération globale est passée de 3,8 millions d'euros en 2013 à 7,1 en 2014. Et pour la totalité des dirigeants, elle passe sur la même période de 8,3 à 14,1 millions. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Quant aux travailleurs de PSA d'Aulnay, c'est pour les uns le reclassement dans les entreprises avec un salaire en baisse, pour ceux qui ont pu rester dans le groupe, des kilomètres en plus, la fatigue qui va avec et des cadences difficilement soutenables. Et pour nombre d'entre eux, le chômage ou l'incertitude. Et jamais rassasiée, la direction de PSA annonce la suppression de 3 450 postes pour l'année 2015. Car, et c'est une leçon que nous ne devons pas oublier, les patrons n'en ont jamais assez. Ils veulent en croquer toujours davantage. Et PSA n'est qu'un exemple, parmi des centaines d'autres. Sanofi, ce fabricant de médicaments qui s'enrichit en creusant le trou de la sécurité sociale, supprime des milliers d'emplois. Ces PDG successifs ont défrayé la chronique. Par leur salaire, les primes à l'embauche, les parachutes plus dorés les uns que les autres, c'est révoltant. Mais derrière ces PDG richement dotés, il y a des actionnaires qui gagnent bien plus. Cherchez l'erreur. Comment gagnent-ils tout cet argent? La réponse est simple, en réduisant les effectifs et en augmentant le rythme de travail de ceux qui restent, tout en bloquant les salaires. Et le comble, c'est que cette entreprise touche chaque année près de 136 millions d'euros d'aide de l'État au titre du crédit d'impôt pour la recherche et la compétitivité. C'est le ministre banquier des Finances, Macron, qui l'a confirmé il y a 2 jours au cours de l'émission d'Élise Lucet, Cash Investigation. L'exemple est parlant, d'autant qu'il ne s'agit que d'un cas parmi des dizaines d'autres en France, parmi des milliers d'autres de par le monde. C'est ce système économique qu'on nous présente comme le meilleur du monde, comme un modèle indépassable, créateur de richesses et de progrès. Des richesses, peut-être, mais pour qui? pour une minorité de parasites. Des progrès, certes, mais au prix d'un océan de misère qui va chaque jour en s'approfondissant. Et il est où, ce progrès ? Quand aux quatre coins du globe, au Moyen-Orient, en Afrique, on fait parler les armes contre les populations. C'est ce système qui nous exploite, nous opprime. C'est ce système qui pourrit la vie de la majorité de la population. C'est ce système que nous combattons et, osons le dire, que nous voulons renverser pour le remplacer par une société débarrassée de l'exploitation des oppressions. Pour le remplacer par un monde enfin fraternel, une société enfin solidaire, où l'on produira pour les besoins de tous et non plus pour satisfaire les appétits et les caprices d'une minorité de parasites. Mais pour en revenir à la situation que nous subissons actuellement, disons que de plus en plus de gens en ont marre et disent, et cela se comprend, que ça ne peut plus durer. Mais que faire ? On a tout essayé, entend-on autour de nous. On a essayé Sarkozy et on sait que son retour n'augure rien de bon pour les travailleurs. La droite ne le cache pas, qu'elle se montre sous le visage de Juppé, de Sarkozy ou de Fillon. Ce que ces gens-là reprochent au gouvernement socialiste, c'est de ne pas en faire assez, de ne pas faire assez vite et assez loin. Pour eux, il faut aller plus rapidement, contre les retraites, sur le travail du dimanche, contre les 35 heures. Cette droite, on ne la connaît que trop. Mais certains, parmi les travailleurs, parmi ceux que l'on côtoie, se disent « Mais Le Pen et le FN, on ne l'a jamais essayé, Le Pen. » C'est vrai que les Le Pen, père et fille, on ne les a jamais vus au gouvernement. Encore qu'on commence à avoir certains de leurs émules à la tête de ces quelques municipalités. Et ce n'est pas joli, joli. Ils se comportent de la même façon que les notables de l'UMP et du PS, qu'ils dénoncent. Mais si on n'a pas encore vu les Le Pen et autres Philippot siéger dans un gouvernement, et c'est tant mieux, on a déjà vu des hommes qui défendaient des idées qui leur sont proches au pouvoir. Hitler, lui aussi, se disait le porte-parole des souffrances du peuple. Allemand, précisait-il. Il se disait même socialiste, enfin national-socialiste. Est-ce que la population même allemande de pure souche, pour reprendre une expression chère à la droite, s'en est mieux portée ? L'histoire a tragiquement répondu à cette question. Plus près de nous, il y a eu des régimes comme ceux dont les idées ressemblent à celles du FN. Il y a eu Franco en Espagne jusqu'en 1975, Pinochet au Chili. Et aujourd'hui, on voit des formations d'extrême droite prendre de l'importance dans nombre de pays d'Europe. Il suffit de regarder leurs programmes, de regarder les idées qu'ils professent. Aucun travailleur ne doit se faire d'illusions. Ces gens-là ne sont pas de notre côté. Ce sont les adversaires brutaux, féroces du mouvement ouvrier, de ses militants, de ses acquis. D'ailleurs, et c'est significatif, ils agissent pour le diviser en essayant de dresser les travailleurs les uns contre les autres. Ceux qui ont dans leur poche une carte d'identité française et ceux qui ne l'ont pas. Nous n'avons pas les mêmes papiers, mais nous travaillons sur les mêmes chaînes. Nous suons des profits pour un même patron. Ensemble, exploités, nous sommes licenciés ensemble, comme à Payessal-Aulnay. Mais il y a une manière plus insidieuse que celle des Le Pen de distiller le poison nationaliste. En se revendiquant, et ce n'est paradoxal qu'en apparence, en brandissant le drapeau de l'Union nationale. C'est ce que nous a servi le gouvernement au moment de l'affaire Charlie Hebdo. L'Union nationale, cela revient d'un côté à nous faire croire que nous, Français, nous sommes d'une même communauté, que nos intérêts à nous, travailleurs, sont communs avec ceux de nos exploiteurs, qu'il ne doit pas y avoir de clivage entre Français. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre Gattaz et un salarié ? Entre Macron et un travailleur de Bricorama qui ne veut pas que l'on sacrifie son dimanche ? C'est en fait opposer ceux qui se situent dans la communauté dite française aux autres communautés. C'est en fait diviser les travailleurs entre eux. C'est d'ailleurs en invoquant cette unité nationale que Valls a fait accepter comme un seul homme l'article 49.3 qui entérinait la loi Macron, c'est-à-dire un grave recul des droits des travailleurs. C'est au nom de cette union nationale qu'il demande aux travailleurs de faire des sacrifices. L'unité nationale, c'est la nouvelle feuille de vigne du gouvernement. Et sur ce terrain, un politicien comme Mélenchon n'est malheureusement pas en reste. C'est regrettable, mais significatif. Lui aussi n'a que ce mot à la bouche, la nation. Alors que c'est une vaste mystification, trop souvent utilisée. C'est toujours au nom de la nation qu'on demande aux travailleurs de faire des sacrifices, pendant que les patrons s'engraissent. Pour nous, il n'y a pas d'un côté les Français et les autres. Les Français et les immigrés. Les Français et l'Europe. Ou les Français et les Allemands. Pour nous, il y a deux camps, celui des travailleurs et celui des patrons. Alors, et c'est là l'essentiel, comment faire entendre la voix du monde du travail, celle de notre camp, le camp des travailleurs? Comment faire valoir nos intérêts? En un mot, comment inverser le rapport de force? À ceux qui pensent qu'on n'y peut rien, regardons ce qui vient de se passer du côté de la Grèce. Oh, pas pour dire que le salut viendra des élections. Les événements tout récents montrent malheureusement que ce n'est pas si simple et que dans le camp des ennemis des classes populaires, la bourgeoisie et ses serviteurs, politiciens et journalistes, on ne recule devant rien. Il ne faut pas se cacher cette réalité. Mais il y a un autre aspect dans cette réalité qui mérite d'être pris en compte. C'est que les opinions peuvent changer très vite. Elles peuvent d'ailleurs changer dans les deux sens. Regardez en Grèce, il y a 5 ans, Syriza ne recueillait que 4% des suffrages. Aujourd'hui, ce parti en recueille 36%. Cela ne suffit pas. J'insiste là-dessus pour changer les choses. On le constate une nouvelle fois quand on voit les difficultés auxquelles se heurtent Tsipras et son équipe. Certes, il est trop tôt pour mesurer sa capacité et surtout sa volonté de tenir tête face à tous ceux qui utilisent les pires moyens pour le contraindre à s'incliner et à abandonner ses engagements concrets à destination des classes populaires. Les premières décisions prises par son gouvernement ne sont pas très rassurantes à cet égard. D'abord, Tsipras ne remet pas en question le fait de payer la dette, mais demande son échelonnement. C'est encore trop pour les bourgeoisies européennes, car ce qui les embête, ce n'est pas Tsipras lui-même, mais le fait que les classes populaires aient voulu refuser cette austérité, aient voulu refuser de payer la dette. Si les bourgeoisies cédaient moindrement, ce serait un encouragement sérieux donné aux travailleurs des autres pays. Alors, la Commission européenne est bien décidée à faire manger son chapeau à Tsipras. En fait, en votant contre l'austérité, les travailleurs grecs ont entamé une épreuve de force dont ils n'avaient peut-être pas conscience. Et ce qu'a montré la victoire électorale de Tsipras, c'est que cette seule victoire, si elle demeure sur le terrain électoral, ne permet en rien de remettre en cause l'austérité. Est-ce que les travailleurs vont se résigner et accepter sans mot dire les diktats de la bourgeoisie grecque et internationale, le chantage des institutions européennes? Espérons que non. Après avoir déposé un bulletin dans l'urne, il faudra qu'ils continuent à se faire entendre dans la rue, dans les luttes. Il ne suffit pas de s'en remettre à des sauveurs suprêmes, autoproclamés. Une issue favorable pour les travailleurs n'a jamais, j'insiste, jamais été ouverte par les succès électoraux. Jusqu'à quand faudra-t-il accepter qu'on nous serine un même refrain? Qu'on nous dise de « voter pour nous, on se charge du reste ». Oui, il faudra que le monde du travail prenne son sort en main, sous peine de voir ses conditions d'existence continuer à se dégrader de plus en plus. Des luttes, nous en sommes convaincus à lutte ouvrière, il y en aura forcément. Oui, forcément, car la rapacité des riches, du patronat, est telle qu'ils nous mèneront vers une situation de plus en plus inacceptable. Mais pour que ces luttes puissent gagner, il faut qu'elles soient massives, collectives, que celles qui se mènent actuellement, et il y en a de nombreuses, convergent dans une lutte d'ensemble, que cela crée un rapport de force puissant qui oblige le patronat à reculer, comme il a dû le faire en 1936 et en 1968. Mais il ne suffira pas de se battre. Encore faudra-t-il que l'on sache pourquoi on se bat, sur quelles revendications. Les problèmes qui touchent l'ensemble des classes populaires actuellement, ce sont, nous le savons tous, le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Face à un chômage qui prend de jour en jour des proportions catastrophiques, il faut mettre un coup d'arrêt à l'offensive des patrons et du gouvernement qui licencient et suppriment des postes dans la fonction publique. Il faut interdire les licenciements. Il n'y a aucune raison aujourd'hui que les patrons suppriment des emplois. Ils n'ont qu'à prendre sur les profits records pour maintenir les salaires et les emplois. Nous avons tous autour de nous des chômeurs. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail, ils croulent sous le boulot. La charge de travail n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Les cadences aussi. Nous devons imposer la répartition du travail entre tous, mais sans diminution de salaire. Ces salaires sont déjà trop bas et ils sont grignotés en permanence par l'inflation, par les augmentations d'impôts, par celles des loyers. Alors il faut que les salaires, les pensions, les retraites soient indexés sur la hausse des prix, des taxes. Quand les prix augmentent, les salaires doivent augmenter dans une même proportion. Les patrons nous répètent que ces revendications sont irréalistes, qu'ils n'ont pas les moyens de les satisfaire. On a du mal à les croire, à voir les profits annoncés par les entreprises du CAC 40 et par les banques et les organisations financières. Eh bien, il faut que les travailleurs et leurs organisations puissent vérifier, qu'ils puissent contrôler les comptabilités des capitalistes. Et ce n'est pas si compliqué que cela, parce que les comptables, les employés de banque sont des travailleurs, parce que les travailleurs font tout fonctionner. Ils produisent, mais pas seulement. Ils sont présents dans l'organisation de la production, du travail, mais aussi à toutes les étapes de la distribution. Ils sont présents dans tous les rouages de l'économie réelle. Sans eux, tout se bloque, tout s'arrête. Les actionnaires, eux, ne servent à rien. Et pour les plus gros, on les voit bien plus souvent se prélasser sur leur yacht de luxe dans les stations à la mode qu'accomplir des choses utiles et nécessaires à la collectivité. Il va de soi que pour obtenir ces exigences pourtant essentielles, il ne suffira pas de le demander poliment au patronat, ni attendre sagement qu'une majorité de députés les vote. Il est évident qu'il faudra des luttes puissantes et organisées. Et même si la colère est là, qu'elle grandit chaque jour un peu plus, même si la situation est explosive et que cela peut éclater tout d'un coup, cela n'est pas suffisant. Il n'est pas sérieux de rester les bras ballants en attendant que cela arrive tout seul. Pour que ces luttes aillent dans le bon sens, pour qu'elles ne soient pas récupérées, détournées ou même utilisées contre les intérêts des travailleurs, il faut qu'il y ait des femmes, des hommes, conscients de la situation, des difficultés à affronter, mais aussi confiants dans les capacités de la classe ouvrière, dans sa force, dans sa détermination. Elle l'a démontré à maintes reprises dans l'histoire. C'est cette perspective-là que nous défendons, nous, à Lutte ouvrière. La tâche est considérable et les enjeux sont déterminants pour le sort du monde du travail, mais aussi pour l'avenir de toute la société. Nous ne l'ignorons pas, mais c'est à cela que nous devons nous atteler. Alors, bonne fête, camarades, et avant de trinquer à l'avenir qui nous attend, à l'avenir de nos luttes et espérons de nos victoires, tous ensemble reprenons le champ de combat des travailleurs, l'Internationale.